Bonjour, aujourd'hui une histoire des arts de la table. Un dîner réussi ne consiste pas tant dans les victuailles que dans la belle ordonnance de la table. Goldoni. ans d'histoire. Depuis qu'ils ont inventé le feu et avec lui la cuisine, les hommes ont pris l'habitude de manger ensemble. Mais les repas que les Romains prenaient allongés sur leur triclinium n'ont pas grand-chose à voir avec ceux que servent les restaurants d'aujourd'hui. Les arts de la table n'ont jamais cessé d'évoluer en fonction des époques, et on n'a jamais vu la même chose sur la table des puissants et sur celle des misérables. Comment comparer la maigre soupe que mangeaient les paysans du Moyen-Âge dans la pièce unique qui leur servait à la fois de chambre et de salle à manger avec les 14 couverts que s'était fait un jour servir Louis XIV dans un des nombreux salons du château de Versailles.
Le roi a commencé son 14e couvert.
Formez le cortège.
Les viandes du roi.
La serviette, mon frère, je vous prie. La musique, je vous prie, mon frère.
La musique du roi.
Le roi ne connaît donc point l'usage de la fourchette?
Si, mais il la réprouve.
L'autre jour, Sa Majesté s'est mise dans une violente colère quand elle a su que Monseigneur le Dauphin s'en était servi.
J'ai soif. À boire pour le roi.
Jacqueline Queneau, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Aubanel un beau livre, La grande histoire des arts de la table, depuis le Moyen-Âge, où comment la cuisine, les produits alimentaires, la façon de se nourrir et de recevoir ont changé depuis un millier d'années. D'abord, il y a le cadre, bien sûr. Quand on prend ces repas au Moyen-Âge, ça n'a pas grand-chose à voir avec... Il n'y a pas de salle à manger, d'ailleurs. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on trouve au restaurant ou la façon dont on est servi dans un restaurant aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de restaurant, ni même, d'ailleurs, de salle à manger, pas de table, pas de chaise, pas d'assiette, pas de fourchette, pas de cuillère, pas de serviette. Avec quoi ou comment mangeait-on au Moyen-Âge, Jacqueline Queneau?
Mais en fait, on dressait une table faite de tréteaux et de planches que l'on recouvrait d'une nappe que l'on appelait la toile. Et tout ça se dressait n'importe où l'on voulait. Ensuite, donc sur cette table, on remettait un doublier, c'est-à-dire une deuxième nappe, plus une longière qui était mise du côté des invités pour qu'ils puissent s'en servir de serviette. Et là-dessus, on posait les tailloirs, qui étaient quelquefois une plaque de bois, sur lequel on posait un tranchoir, c'est-à-dire une tranche de pain.
Rassis de préférence.
Rassis de préférence, bien entendu, parce que c'est là-dessus qu'on allait poser les aliments et les découper.
Il n'y avait pas de couvert non plus, à part un couteau. Je crois que c'était l'invité qui amenait son couteau.
Voilà, chacun avait son couteau, et, ou alors si on ne l'avait pas, on empruntait celui de son voisin, tout comme s'il y avait quelque chose de liquide à manger, et donc qui était présenté dans une écuelle, et bien l'écuelle se passait de bouche en bouche, de voisin à voisin.
Et alors il y avait cette espèce de planche posée sur un tréteau. Tous les convives étaient du même côté de la table pour faire face à un spectacle, parce que dans les châteaux en tout cas, il y avait quand même un spectacle pendant les repas.
Oui, c'est ce que l'on appellera les entremets. Il y avait un spectacle, mais ça servait aussi pour le service. C'est-à-dire que comme ça, les domestiques arrivaient face aux invités et déposaient les plats comme ça. Mais plus la personne invitante était riche, plus les entremets étaient importants avec jongleurs et musiciens.
Alors ça, c'était pour les riches, parce que les pauvres, eux, n'avaient pas grand-chose, en fait. Hein. C'était pas du tout le même cadre dans lequel mangeaient les paysans, c'est-à-dire l'immense majorité de la population.
Oui, oui. L'alimentation des paysans était simplement une alimentation de subsistance. La viande était très exceptionnelle. La plupart du temps, ils mangeaient ce que l'on appelait des racines, donc c'était des légumes, et puis c'est tout.
Et on était sur des bandes, d'où l'origine du mot banquet, parce que votre livre ne remonte pas jusqu'à l'époque romaine, mais on a abandonné cette position couchée qu'avaient les Romains quand ils prenaient leur repas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je fais commencer le livre au Moyen-Âge français, où là, bien entendu, le fauteuil apparaît. Bien entendu, le seigneur est sur un fauteuil ou les invités de marque sur des chaises. Mais sinon, ça peut être une botte de paille sur laquelle on met un tissu qui s'appelle un banquier, d'où le nom, petit à petit, qui sera donné au banquet, c'est-à-dire le repas de fête.
Et que mangeait-on dans ces banquets, justement, Jacqueline Queneau ?
Bien, alors, beaucoup de viande, des volailles, du bœuf, de la venaison, et tout ça était très aromatisé de verjus, c'est-à-dire le verjus, suivant la saison, c'était du raisin qui est vert qui était pressé, mais aussi on le faisait à base d'oseille. Et puis toutes ces viandes étaient cuites avec du gingembre, beaucoup de cannelle, de la muscade, du safran. On noyait un petit peu les saveurs sous les épices.
C'était un soir d'ascension. Dame Jeanne de Malmain, mère de notre Bertrand, présidait le repas de fête, car le père, Sir Robert du Guesclin, était en voyage. Une table avait été dressée pour les métayers du domaine. C'étaient des bons maîtres. J'étais assis au bord bout, à côté de mon père. Notre maîtresse avait près d'elle ses deux cadets, Olivier et Guyot.
C'est l'ensemble Clément Jeannequin. Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin. C'est une chanson composée par Loisey-Compère au tout début du XVIe siècle, du temps de Rabelais. C'est une chanson à boire, mais aussi dans laquelle on entend, en fait c'est pas très audible, mais enfin il y a toute une liste de bonnes choses qu'on pouvait manger à l'époque de la Renaissance, le chapon, l'oie. Il n'y a pas en revanche tous ces produits qui apparaissent un siècle après du Guesclin et qu'amène la Renaissance. C'était une vraie révolution à vous lire, Jacqueline Queneau. Il y a des quantités de produits qui viennent d'où, bien sûr, qui viennent des continents nouveaux qu'on découvre en Amérique.
Oui, tout à fait. Il y a notamment le maïs ou la tomate, par exemple, qui vont apparaître, mais qui vont être très longs à s'acclimater et très longs, surtout, à plaire aux gens. La pomme de terre apparaît déjà à ce moment-là, mais avant que Parmentier, avant que Parmentier ne réussisse à la mettre sur les tables, elle ira au cochon et les gens la négligeront parce qu'ils la trouveront trop rustique et pas assez raffinée, parce qu'ils ne savent pas encore, bien entendu, la cuisiner. Le riz est connu déjà des Perses et il va petit à petit aussi, c'est une époque où il va migrer tout autour de la Méditerranée pour arriver dans le sud de la France. Mais là encore, c'est très lent pour que ça passe sur les tables des aristocrates.
La tomate fait peur aussi, on la compare à la mandragore, voilà. Qui est un produit, sa couleur rouge n'inspire pas une grande confiance. S'il y a un produit, en fait, c'est une volaille qui plaît beaucoup, dont parlait Rabelais, je crois d'ailleurs qu'il en utilisait pas mal, c'est ce qu'il appelait la poule d'Inde, c'est-à-dire tout simplement la dinde.
Voilà, c'est ça, elle apparaît à ce moment-là. Et là, par contre, elle vient très vite sur les tables. Elle est très, très vite cuisinée. C'est peut-être parce qu'elle est proche esthétiquement des volailles que l'on avait l'habitude de connaître. Et elle est tout de suite appréciée parce que très goûteuse.
Quand vous parlez de cuisine, il y a le lieu cuisine aussi qui change de place, ou plutôt qui a une place. Au début, même dans les châteaux, la cuisine, on mélangeait un peu tout. La cuisine, c'était en fait la cheminée. On mangeait à côté de la cuisine. Et là, elle commence à se séparer à l'époque de la Renaissance. sens de la pièce où l'on mange. C'est toujours pas une salle à manger, mais c'est plus l'endroit où on cuisine.
Oui, c'est-à-dire que la période du Moyen-Âge, il y a des cuisines, bien entendu, qui apparaissent. Mais là, c'est toujours les exceptions des très, très grands aristocrates. Sinon, on cuisinait dans la cheminée et puis il y avait un point pour avoir de l'eau. C'était très succinct. Tandis que petit à petit, avançant dans l'époque, les cuisines deviennent plus performantes. On conçoit des cuisines avec plusieurs cheminées. Il y a une cheminée qui est réservée à telle et telle cuisson. On fait de petites cheminées pour les petites cuissons, d'énormes cheminées pour les grands, les bœufs ou les grandes viandes.
Et puis alors on voit apparaître des choses tout à fait nouvelles, révolutionnaires pour l'époque. L'assiette à manger, par exemple, qui n'existait pas. Il y avait le tailloir, cette espèce de pièce de bois sur laquelle on déposait le pain. Là, ça va disparaître progressivement à la Renaissance avec l'assiette à manger. Mais c'est une assiette commune, hein, Jacqueline Queneau.
Oui, c'est toujours une assiette commune. Et surtout, la Révolution vient de l'apparition de la faïence. La faïence était connue, bien entendu, depuis très longtemps. Mais elle se généralise en venant par l'Italie et aussi l'Espagne. Et d'un seul coup, ça devient un produit qui est accessible, je ne vais pas dire au tout venant, non, mais néanmoins à certains riches bourgeois ou riches aristocrates. Donc, ils peuvent avoir ces fameuses assiettes. Et au début, bien entendu, elles sont un petit peu solitaires et plusieurs convives peuvent l'utiliser. Et puis, petit à petit, elles vont être pour chaque convive.
Grande révolution, ils ne l'utilisent plus avec leurs doigts. On commence à voir, enfin, si ça se passe, mais enfin, on commence à utiliser la fourchette. Ça, elle vient avec Catherine de Médicis. C'est une immense nouveauté, ça.
Voilà, c'est ça. En 1533, Catherine de Médicis arrive pour épouser Henri II et elle apporte avec elle, elle provoquera plusieurs révolutions parce qu'elle vient aussi avec elle, viennent ses cuisiniers, des cuisiniers florentins, et elle apporte, comme vous le disiez, la fourchette. La fourchette était connue en Italie, pas en France, et elle essaye de la mettre à la mode en France, mais ça va être assez refusé, notamment parce que son fils, Henri III, qui a des tendances efféminées, va lui immédiatement l'utiliser. Et c'est mignon avec lui. Et il y aura un rejet d'une partie de la cour à cause des façons trop féminines de ces hommes. Et ils assimilent ça à l'usage de la fourchette. Et la fourchette sera encore reléguée.
Même Louis XIV, on l'a vu, n'aimait pas trop la fourchette. D'ailleurs, on ne fait que piquer pour prendre quelque chose dans l'assiette commune. Mais on ne l'apporte pas à sa bouche. Il faut dire qu'on envoie quelques reproductions dans votre livre, Jacqueline Queneau. C'est une fourchette très pointue, avec simplement deux dents.
Voilà, c'est ça, deux dents et des bouts très effilés. Et c'est vrai que les gens se blessaient parce qu'ils n'en avaient pas appris l'usage comme nous dès l'enfance.
Alors avec cette révolution, il y en a une autre qui se produit maintenant que c'est de plus en plus raffiné. Forcément, on commence à apprendre les bonnes manières. Qui les apprend? Et bien, c'est tout simplement Erasme, qui écrit un livre justement de bonne conduite destiné en principe aux enfants. Ça s'appelle La civilité puérile. Alors j'en ai tirer quelques extraits de votre livre. Et soin de lâcher auparavant ton urine avant le repas
à
l'écart, et si besoin de te soulager le ventre, ne plonge pas le premier tes mains dans le plat que l'on vient de servir, car celui qui fourre sans y penser quelque chose de trop chaud dans la bouche doit le recracher ou se brûler le palais en avalant. Il est discourtois de lécher ses doigts graisseux ou de les nettoyer à l'aide de sa veste. Il vaut mieux se servir de la nappe. Bon, c'est joli. Attentif aux moindres détails, Erasme ajoute, certains recommandent aux jeunes de retenir un vent en serrant les fesses. Non, il faut suivre le très vieux précepte, cacher le bruit par une toux. Hein, enfin, s'il arrive qu'on ait dans la bouche un morceau que l'on ne puisse avaler, on se tourne adroitement et on le rejette. Bon, ça, c'est des bonnes manières qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Mais enfin, c'était quand même un bel effort de la part d'Erasme.
Oui, à le lire maintenant, ça paraît ahurissant qu'on ait pu faire un livre sur de tels usages, parce que bien entendu, depuis tout ça est oublié, mais ça définit tout à fait ce qui se passait dans les cuisines et dans les dans les lieux où l'on mangeait à l'époque.
Oui, alors cette volonté de définir justement des bonnes manières, elle ira en augmentant à l'époque notamment de Louis XIV, ou même en période de carême, eh bien, va-t-elle remplacer la viande par du poisson? Mais c'était pantagruélique.
Il y aura du turbo, de la sole, du brochet, du flétan, du mulet, dressé en monceau comme sur les gravures. Truites et saumons sembleront nager dans le bouillon. Sur la table de Sa Majesté, un monstre marin, une énorme morue cuite d'une pièce, engelée, décorée, tenant dans sa gueule un maquereau. Jamais l'on n'aura vu un tel festin de glace.
Gourville, aidez-moi. Les lanternes que j'avais commandées se sont toutes brisées durant le voyage. Le banquet sera un vrai fiasco.
Ce ne sont que des aliments voués à la chaise percée.
Non, Gourville. Il y va de l'avenir de la maison de Condé.
Condé a de la chance. Ce banquet ferait pâlir d'envie un empereur romain. Et qui est ce Battel? D'où vient-il exactement?
Des bas-fonds de Paris.
Monsieur, vous nous avez régalé de saveurs inoubliables.
On a reconnu Gérard Depardieu dans cet extrait de Vatel, dont il jouait le rôle dans ce film de Roland Joffé. Vatel, alors, c'était un repas chez Condé préparé par Vatel. En fait, il était maître d'hôtel, pas vraiment cuisinier, mais c'était quelque chose, on l'a entendu.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas confondre. Vatel n'est pas un cuisinier. Vous avez tout à fait raison. C'est un grand ordonnateur, un grand organisateur de banquets. Et c'est ce qui a provoqué sa mort, justement, parce que à l'occasion de ce grand repas que Condé donne parce qu'il veut obtenir les bienfaits de Louis XIV, c'est à l'occasion de ce repas que Vatel va se donner la mort, parce que la veille, la viande a manqué déjà, parce qu'il y avait des personnes non invitées qui sont arrivées et qu'il a fallu, bien entendu, accueillir au banquet. Et dans la nuit, il se relève pour aller voir si le poisson est arrivé. Annoncé, oui. Voilà. Et un seul chariot est arrivé avec une maigre, trois poissons. Voilà. C'est ça. Et on lui dit surtout, mais la marée a été très mauvaise parce que la mer est démontée. Donc lui n'imagine pas que d'autres chariots vont pouvoir arriver, et c'est là qu'il se suicide. Et on ne découvre son suicide que quelques heures après, lorsque les chariots sont arrivés, et on se dit, on va aller réveiller Vatel pour qu'il vienne justement ordonnancer ce futur repas.
Parce qu'à l'époque de Louis XIV, on ne plaisante pas avec ça, c'est très sérieux, hein, les repas, c'était une question de prestige. Louis XIV était le premier à organiser des fêtes absolument splendides à Versailles, et avec des nouveautés. D'abord, la façon de présenter les plats. Alors là, il y a des quantités de services, je ne sais pas si 14, ça a été jusqu'à 14, comme dans l'extrait de vide qu'on a entendu. Mais enfin, il y avait ce qu'on appelait les couverts, il y avait plusieurs plats par couvert. Il y avait ce qu'on appelait le service à la française, hein, qui va durer longtemps, jusqu'au 19e siècle. Et puis alors, il y avait toutes ces révolutions, encore une fois, dans la façon dont on pouvait manger, l'apparition de l'assiette individuelle et des couverts. Hein. Même si Louis XIV n'aimait pas la fourchette, il y avait quand même des fourchettes.
Oui, c'est ça. L'assiette devient individuelle, la fourchette également, et le couteau aussi. Chacun maintenant a son couvert, sauf le service du vin se fait toujours en dehors de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verre posé sur la table. Les verres et les vins sont placés sur un buffet à côté des invités, et c'est sur un ordre ou une demande d'un convive qu'un serviteur apporte un verre qui est déjà servi d'une petite quantité de vin, et le convive boit intégralement le verre, et le verre après est reposé dans un rafraîchissoir en attendant qu'un autre convive demande à boire.
Quant aux assiettes, elles sont très belles aussi, on les voit dans votre livre, et puis elles sont dans un produit nouveau, c'est la porcelaine.
Oui, alors ça, c'est une nouvelle révolution. La porcelaine apparaît. Elle apparaît dès la fin de la Renaissance, mais c'est bien entendu au XVIIe siècle qu'elle fait florès. Et cette porcelaine vient de Chine. Marco Polo l'avait découvert. Et c'est de cette découverte que vient son nom. En fait, porcelaine vient de porcelena, qui veut dire en italien petit coquillage. Et très vite, notamment les Portugais vont affréter des bateaux pour partir en Chine, parce qu'ils ont tout de suite compris qu'il y avait un marché extraordinaire à faire. La France va suivre, Colbert va amplifier la chose en créant à Lorient un port exprès pour ce que l'on appelle après les compagnies des Indes. Il y en aura en Hollande, tout le monde va aller chercher la fameuse porcelaine.
Autre révolution, Jacqueline Queneau, c'est l'heure des repas. Alors j'ai découvert en vous lisant une chose assez curieuse, c'est que les repas du Moyen-Âge, en fait, il n'y en avait que deux. Il y avait ce qu'on appelait le dîner, mais le dîner, D-I-S-N-E-R, d'ailleurs c'est écrit comme ça, se prenait le matin. matin, hein, entre de 9 à 10 heures du matin. Et puis le deuxième repas, c'était beaucoup plus tard, c'était le souper, hein, à 5 ou 6 heures du soir, parce qu'on se couchait tôt, parce qu'il fallait économiser les chandelles. Avec Louis XIV, ce dîner et ce souper vont être décalés avec l'apparition d'un troisième repas, qui est le déjeuner.
Oui, c'est ça. Tout, petit à petit, ça glisse. Et jusqu'à notre époque, maintenant, dîner, c'est le repas du soir. Souper, c'est quasiment le réveillon à minuit. Petit à petit, ça se décale parce que, oui, les usages évoluent.
Et le déjeuner, surtout, ce qui m'a amusé, c'est que le déjeuner vient du mot... Alors, on le prenait à quelle heure? On le prenait tôt le matin, parce que ça vient du mot disjunare, du latin disjunare, qui est la rupture du jeûne du sommeil. Donc, on se réveille, on prend son disjeuner, enfin, c'est le petit déjeuner. Le dîner est décalé à 1h de l'après-midi, c'est-à-dire l'heure de notre actuel déjeuner, le souper vers 7-8 heures, un souper comme celui auquel Talleyrand avait invité un jour Fouché au début du 19e siècle.
Et à qui ce soir à la maison?
Tu le sais très bien. Le gros carême à ses fourneaux, le serveur à la porte, et nous pour le service.
Deux couverts? Pourquoi deux?
Il a un invité.
Alors quel invité? T'as vu ce qui les attend à la cuisine? Un vrai souper de roi.
Foie gras truffé.
Du Périgord, donc de chez moi.
Prince, vous savez vivre. Être traité par vous, c'est presque vous appartenir.
Et regardez la suite. Asperges en petits pois, cul d'artichaut à la ravigote, saumon à la royale, filet de perdrix à la financière.
À votre table, on ne peut pas penser à changer de régime. Le gros carême est toujours à votre service?
Oui. En France, les régimes passent et la cuisine demeure.
Vous lui ferez mes compliments. Ce souper est une merveille.
Je n'y manquerai pas.
Les régimes passent et la cuisine demeure. Entre-temps, il y a eu effectivement la Révolution française, mais la cuisine est restée. Et ça, Talleyrand connaissait quelque chose, et de l'Ancien Régime et de la cuisine. C'était vraiment... Il avait beau avoir Carême comme cuisinier, c'était le plus grand de l'époque. Il adorait, c'était une fine gueule, Talleyrand.
Oui, tout à fait. On le compare souvent aussi avec Cambacérès, qui a été lui aussi un grand amphitryon, et notamment à la demande de Napoléon, qui voulait à tout prix que beaucoup de choses politiques se passent à table. Mais Cambacérès, lui, allait à l'économie. Il présentait les plats et il disait à ses domestiques, laissez-les sur les buffets et servez de petites parts. Tandis que Talleyrand était dans une générosité de nabab.
Et puis on déjeunait, enfin on dînait, on soupait plutôt. Dans le cas de Talleyrand, on soupait dans une salle à manger. C'est marrant quand même qu'on ait attendu si longtemps, c'est à peu près le 18e siècle ou le 17e, pour inventer la salle à manger, une table aussi, hein, c'est fini les tréteaux, les planches à tréteaux. Alors tout ça, c'est vrai, c'est de plus en plus raffiné, c'est merveilleux, on a entendu la liste des repas, mais ce n'est vrai que chez les riches, car pour les pauvres, eh bien, depuis le début du 19e siècle, rien n'avait changé depuis le Moyen-Âge.
Le feu s'est éteint. Maman, j'ai faim.
Mon pauvre petit, il n'y a pas grand-chose de bon ici.
Tiens, mange un peu de mic.
Dis, maman, il y avait de beaux poulets au château.
Oui, mon fils. Et des dindes et des truffes, plus qu'ils n'en pourront manger.
Pourquoi ils ont tant de choses?
Parce qu'ils sont riches.
Oh, papa, oh, je suis contente de te voir. Oh, t'as pris tout ça?
Bah oui, tu vois.
Et qu'est-ce que c'est?
Un merle, une grive, une autre grive.
À table, la soupe est prête.
Qu'est-ce que tu as, Jacou?
La soupe, au fond, c'est ce que depuis le Moyen-Âge, les pauvres, c'est-à-dire les paysans, pour l'essentiel, jusqu'au 19e siècle, mangeaient, Jacques Quinquennot. Rien n'a changé chez eux.
Non, tout à fait. Ça a toujours été de l'eau, des légumes, un petit peu de gras grâce au lard du cochon et c'est tout. Mais le mot soupe, vous savez, vient des tranches de pain que l'on mettait justement dans ce que l'on appelle maintenant la soupe. Et ces tranches de pain s'appelaient soupe.
Et tout ça dans une pièce unique, hein, pratiquement. On ne distingue pas la cuisine de la chambre à coucher. Tout ça se fait exactement au même endroit. C'est assez pathétique. Cela dit, ça va changer quand même au 19e siècle. Avec aussi l'apparition, alors ça, c'est pas encore pour les les pauvres, mais ça viendra ultérieurement, de quelque chose de nouveau aussi. Je pensais que c'était plus ancien, c'est vrai qu'il y avait les auberges. C'est le restaurant qui va changer beaucoup de choses aussi dans l'art de la table. D'abord, elle est à l'extérieur du domicile dans ce cas-là.
Oui, alors c'est un phénomène qui apparaît déjà au XVIIIe siècle et qui s'amplifie à l'époque de la Révolution, parce qu'à l'époque de la Révolution, bien entendu, les nobles émigrent et leurs cuisiniers, quelquefois, les suivent, mais beaucoup restent en France. Et là, il faut bien continuer à vivre et à gagner sa vie. Et c'est là qu'ils ouvrent les restaurants. Et la révolution culinaire est double, c'est-à-dire que au lieu d'avoir ce que l'on avait avant, c'est-à-dire les grands services avec plein de plats qui sont posés devant les convives, là, le restaurant propose des portions. Et ça va nous amener très vite à ce que l'on appellera le service à la russe. Vous en parlerez certainement. Donc, ces restaurants...
Non, c'est vous qui en parlez.
Eh bien, alors, parlons-en, si vous voulez. Donc, ça apparaît au 19e siècle, le service à la russe. C'est le service que nous connaissons, bien entendu, maintenant. C'est-à-dire qu'on apporte plat par plat ce qui est à déguster sur la table. C'est-à-dire, donc, il y a l'entrée, le plat fait le tour des invités, il y a la viande, etc. Et surtout, tout était découpé en cuisine. Alors qu'avant, donc, le service à la française, tous les plats étaient apportés service par service devant les convives. Et là, on prenait un petit peu dans chaque plat où on demandait à son voisin de nous donner une petite quantité dans un plat qui était inaccessible.
Alors tout ça n'a pas tellement changé au fond depuis le 19e siècle. Certes, il y a l'apparition de la nouvelle cuisine au 20e, mais grosso modo, on vit un peu sur le même modèle en ce qui concerne les arts de la table qu'au 19e siècle. Les heures de repas aussi, qui sont maintenant celles que nous connaissons bien. La démocratisation aussi, le restaurant n'est plus inaccessible. On a quand même la plupart du temps sa cuisine. Il y a eu aussi cette révolution qui a pu être les appareils ménagers, bien entendu, qui ont permis de se passer d'une domesticité. Ça a quand même beaucoup changé au XXe siècle, grâce à cela, grâce aux arts ménagers, comme on les appelle.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, apparaît dès le 19e des révolutions, telles que Appert avec sa stérilisation, qui là, d'un seul coup, va permettre de conserver beaucoup plus les aliments. Et puis aussi, il va y avoir, on invente la réfrigération aussi, le futur réfrigérateur est déjà connu au 19e siècle. Mais ce qui évolue aussi par rapport au 19e siècle, c'est que nos menus, bien entendu, sont beaucoup plus légers. Maintenant, un menu, c'est une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Tandis que les menus du 19e siècle comportaient des dizaines et des dizaines de plats différents.
Merci, Jacqueline Queneau. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre très beau livre, La grande histoire des arts de la table, publié aux éditions Aubanel. Et puis pour nos jeunes auditeurs, Une petite histoire de Derrière les fourneaux de Florence et Christine Noiville chez Actes Sud Junior. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2, Du Guesclin de Bertrand de Latour, Jacoule Croquant de Stello Lorenzi, édité par TF1 Vidéo, Vatel de Roland Joffé, un DVD Gaumont, Le souper d'Edouard Molinaro en DVD chez France Télévisions et enfin Nana de Christian Jacques avec Martine Carole, édité en DVD aux éditions Montparnasse. Des informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Renan Mahé et Rémi Quincé, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.